Alors Cédric Aumont, d'abord bonjour.
Bonjour Tibi.
Alors nous sommes dans un endroit qui est fort sympathique et bien loin de la cohue bruyante d'un salon de Essen, puisque nous sommes dans une salle d'exposition où nous nous retrouvons avec bien de belles choses à voir. C'est l'exposition Seven Wonders, dont le sous-titre est « Du prototype au best-seller ». Donc finalement, c'est quoi le but d'une exposition comme celle-là ?
Eh bien écoute, c'est une opportunité qui nous a été donnée de créer une expo. On nous a dit « Écoutez les gars, en ce moment... à Louvain-la-Neuve, donc ville culturelle belge, hein, ville étudiante. Cette année, le thème de la ville va être le jeu, sous tous ses aspects. Et il y a un espace d'exposition. Est-ce que ça vous dirait, après tout, comme vous êtes société belge, d'aller exposer là-bas ? Qu'est-ce que vous auriez à montrer ? Peut-être Seven Wonders, vu que c'est quand même le jeu qui a remporté tous les prix, etc. etc. Eh bien, allons-y. Faisons une expo sur Seven Wonders. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée, à l'initiative de Tanguy de Case Départ, qui nous a mis le pied à l'étrier pour créer cette expo.
D'accord. Et donc, l'idée, c'est donc de passer à travers les différentes étapes. On va passer à travers ces différentes étapes main dans la main. Cédric, ça va être magnifique. Mais combien de temps ça a mis à se préparer une exposition comme ça ?
Cette exposition a été préparée en parallèle avec le salon de Essen. Donc, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est la fatigue résiduelle. Et ça a mis plusieurs mois, en fait. Je pense qu'il y a à peu près 2 mois de travail à plusieurs personnes chez nous. Ça paraît pas comme ça, mais c'est vraiment du boulot de préparer une expo. Ce qu'on a pensé faire, donc, c'était vraiment expliquer l'évolution du jeu entre le moment où on a une idée et le moment où le jeu se vend et devient un best-seller. Donc, on a fait plusieurs petites recherches. On va expliquer comment l'idée est née chez Antoine. On explique aussi de façon générale, générique, comment se fait un jeu entre l'idée et le moment où il se vend. Donc, les différents intervenants dans le processus de création d'un jeu. Et puis, on est allé un petit peu creuser les vieux cartons qui sont à la cave en train de prendre l'humidité et on a retrouvé des vieux morceaux de proto de l'époque. Et on peut découvrir quelques étapes du développement de Seven Wonders, ce qui, à mon avis, intéressera la plupart des joueurs.
Eh bien, allons-y, Cédric. Donc, ici, nous avons donc un panneau de l'idée au prototype. Je te laisse nous guider, on ne va pas
alors,
lire.
Écoute, voilà, donc cette exposition est étonnamment divisée en 3 âges. L'âge 1, l'âge 2, l'âge 3. Donc, l'âge 1, on explique un peu, on résume ce qu'est un auteur de jeu. Parce que le statut d'auteur, il n'y a pas encore si longtemps, n'existait pas vraiment pour les jeux de société. Donc on explique que c'est un type qui a une idée, que son idée peut provenir de plusieurs endroits, et que son idée va maturer un petit peu jusqu'à ce que vraiment il y ait quelque chose de palpable. On va passer au panneau numéro 2.
Certainement.
Ah, entre deux, nous sommes face à une grande illustration, parce que Sophie aussi fait un petit peu plaisir, on a mis des grandes cartes du jeu entre deux, donc pour regarder un petit peu le travail de Miguel. Donc voilà, hop, poursuivons. Ah, ici nous avons un panneau consacré à Antoine Boza.
Toutes ses créations.
Donc sa biographie, sa ludographie, sa bibliographie, sa comicographie, je ne sais pas comment on dit pour les bandes de dessinées.
Sa BD-graphie.
Voilà, sa role-playing-ographie, sa RPG-graphie, enfin bref, tous les trucs qu'Antoine a fait, parce qu'Antoine fait plein de choses, donc forcément, ça commence à faire une belle liste, 2-3 petites images. Et
avec le premier jeu qui démarra 2007, et qui maintenant, on est à Rampage Simbad qui seront en 2013, donc ça fait déjà 8 ans de boulot.
Ça fait un bout de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a signé Ghost Stories. On a signé Ghost Stories, je pense, avant que Chabirin soit édité. Donc je pense que c'est plus ou moins dans les mêmes eaux.
Oui, tout à fait. Ok. Sur le panneau, il y a la date de naissance d'Antoine que l'on ne dévoilera pas.
Que l'on ne dévoilera pas. Voilà.
Alors, une petite vitrine.
Alors, une petite vitrine avec des petites choses intéressantes. Là, on pénètre un peu dans l'intimité créative d'Antoine, créatrice. Un de ses carnets, parce qu'Antoine a des carnets de notes, c'est un peu comme Léonard de Vinci, il y a des codex. Donc ça, c'est le codex 1, codex Lupus Antonius,
Seven Wanderus,
à tes souhaits, où Antoine a commencé à gribouiller ses idées du jeu. On a le premier prototype qu'il nous a soumis, qui est encore une petite boîte. On a plein de cartes des étapes que nous, on a fait entre deux, des premiers protos qu'on a imprimés. Et on a des organigrammes, parce qu'Antoine raisonne par organigramme souvent, il résume par organigramme. Et donc, il avait mis en avant tout ce qu'il voulait pour le jeu.
On le voit en fait, c'est dans une série d'étapes. Donc, c'est pas des étapes, c'est vraiment des domaines de développement du jeu. Donc, principe du jeu, éléments du jeu.
On peut voir qu'à l'époque, le but du jeu, c'était d'être le premier à avoir fini sa merveille.
Voilà, c'est plus le cas.
Non, par contre, dès le début, on avait des relations avec les voisins uniquement à gauche et à droite.
Et ça, c'est la version 1.0, vraiment la toute première. Genre, je me réveille en pleine nuit et je fais un organigramme.
Exactement. Voilà.
Alors Antoine Boza, c'est une histoire incroyable qui se passe ici, puisque nous avons une exposition consacrée à ton jeu. Qui l'eût cru ?
Qui l'eût cru ? Oui, qui l'eût cru.
C'est pas mal hein, comme introduction.
Ouais, c'est bien, non, c'est bien.
Ça me semble très bien.
Tu as participé évidemment à la construction de cette exposition. On voit dans les vitrines là, par exemple, des carnets de notes et des mind maps, comme on dit, avec des, carrément toutes tes idées. Comment ça se passe ? C'est comme ça que tu crées des jeux ? Tu as plusieurs cahiers de notes et tu te réveilles en pleine nuit avec des idées en criant ?
Non, je crée pas parce qu'il y a des gens qui dorment à côté. Que c'est, qui
il y a un enfant.
Pas, mais maintenant, il y a un enfant en plus. Mmh. Et lui dort bien, donc il se réveille pas. Ça commence toujours dans un de mes carnets, ouais, effectivement. J'avais l'habitude de faire ça sur des feuilles volantes.
Ouais.
Puis je les pomme, et des fois, c'est dommage parce que tu pommes des trucs que tu oublies. Bon, les très bonnes idées, généralement, elles restent en tête quand même. Oui. Mais en fait, je me sers plus du carnet pour les organiser. Enfin, c'est plus dans l'autre sens. L'idée vient pas du carnet, c'est juste que le carnet m'aide à structurer l'idée, en fait. Donc voilà, c'est ma modeste contribution à l'expo, parce qu'il faut quand même reconnaître que j'ai pas fait grand chose d'autre. Donc j'ai fourni mes notes, voilà ce que t'appelles la mind map, que j'utilise pas toujours, mais sur certains projets, quand justement j'ai des pages de notes dans tous les sens et j'essaye de tout rassembler visuellement au même endroit.
Ouais.
Donc là, à ce moment-là, j'utilise des fois des mind maps, mais pas toujours, c'est pas une règle. Et l'autre document que j'ai fourni, que ça j'utilise à chaque fois, c'est ce que j'appelle la roadmap, c'est la liste de toutes les versions du jeu avec toutes les modifs que j'ai faites, qui va m'aider notamment à, si j'ai besoin de revenir un pas en arrière, ou aussi quand j'ai besoin de faire des statistiques. Sur Seven, il y a des statistiques de score moyen et tout. Ouais. Donc du coup, j'ai aussi toutes les parties tests qui sont notées dans ce document-là, avec tous les scores et quelle merveille a fait quel score.
Ouais.
Et du coup, au bout d'un moment, ça me permet quand même d'observer les comportements en termes de statistiques. Donc voilà.
Ouais. Ça, par rapport aux auteurs que tu côtoies, parce que ça t'arrive hein, de travailler avec d'autres auteurs,
j'essaye d'éviter, mais
oui, pas toujours le choix. La méthode de travail qui est justement de prendre note, ou est-ce qu'il y a des choses qui se retrouvent chez chacun des auteurs en disant voilà, ça, c'est marrant, on fait tous la même chose par rapport à telle partie de la création ?
En fait, ce que tu constates, c'est qu'on fait plutôt chacun de sa façon. Enfin, il y a certains points communs, mais ce qui surprend le plus, on va dire ça, c'est qu'on travaille de manière très très différente. Si tu demandes à Ludovic Maublanc, avec qui j'ai travaillé, par exemple, lui, ça lui arrive de commencer par faire du matériel.
C'est ça.
Il sait pas encore ce que va être le jeu, il fait du matériel. Une fois qu'il a fait le matériel, il commence à dire ah, on pourrait jouer comme ça et tout. Enfin, moi, ce que je suis incapable de faire. Quoi. Bruno Catala, il cérébralise vachement, il joue dans sa tête. Il arrive avant de faire un premier proto, il arrive déjà à faire des premiers. Voilà. Moi, je suis un peu flemmard, donc j'ai besoin de faire rapidement un prototype et rapidement de jouer. Et ça marche pas, bien sûr, mais voilà. Donc ça, ce que tu constates, c'est que chacun fait. Bon, la prise de notes, il y en a beaucoup qui font. Voilà, mais après, on a vraiment des manières super différentes d'aborder le.
Mais ça fait des équipes complémentaires. Finalement.
Ouais, et puis du coup, c'est ce qui est intéressant quand tu travailles en binôme, c'est que c'est toujours intéressant de voir comment les autres travaillent, parce que tu apprends aussi des choses, et voilà, ouais.
Alors, l'exposition va durer 3 mois, apparemment, elle va se retrouver aussi à d'autres endroits.
Ouais, bah, l'objectif, c'est de la faire circuler comme une expo classique, donc essayer de la faire circuler pour qu'un maximum de gens puissent la voir, donc. Normalement, elle devrait être au Festival de Cannes. Je sais que ça a été discuté à Essen la semaine dernière. Et je sais qu'il y a d'autres festivals qui seraient intéressés pour la voir. Alors, je n'ai pas les détails, c'est pas moi qui occupe. Mais elle devrait tourner. En France, en tout cas, elle va tourner. Et puis, j'espère, hors
le cosmos.
Ouais, dans le cosmos, ça serait bien. Ouais. Vu qu'elle est en anglais aussi.
Alors, de l'idée au prototype, on continue. Comment est né Seven Wonders ?
Donc, on retrouve un petit peu de l'inspiration d'Antoine.
Oui.
Où il explique qu'il a lu un article au National Geographic qui lui a donné le thème et qu'après il a ricoché sur le thème. Antoine bosse souvent à partir du thème, mais ça tu lui demanderas, il te l'expliquera beaucoup mieux.
Absolument.
Voilà. Et puis ensuite, l'idée des trois âges qu'il a eue. Voilà, bon, c'est résumé. Après, les gens n'auront qu'à aller voir l'expo. Elle est,
absolument.
Là, elle est là pendant 3 mois, je crois.
Oui.
Voilà. Ah, un autre grand dessin, du papyrus.
Alors, H2.
Ah, nous passons à l'H2 et là, on va présenter un autre intervenant autour du jeu. Après l'auteur, il y a l'éditeur. Et c'est nous, c'est nous, c'est nous. Donc voilà, on explique un peu qui est Repos Productions, une société d'édition belge. Et on sort maintenant la désormais célèbre analogie que l'on doit à T. Provost.
Oui.
Il a cité ça en 2005, si les tablettes sont exactes.
Oui.
Si l'on prend comme analogie le cinéma, l'auteur est le scénariste et l'éditeur est le réalisateur. Voilà, merci pour cette seconde de silence. On peut voir aussi l'évolution du packaging, parce que vous avez échappé à la boîte du milieu, hein, qui était quand même couleur couleur caca, c'est
oui.
ça. Ouais.
Et qui fait un peu publicité pour Hôtel de Las Vegas.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. On dirait le Luxor. Alors, panneau suivant.
Panneau suivant. Il faudrait une petite clochette.
Voilà. Tournez la page. Ouais. Alors, on fera aussi la phase suivante, parce que ce sera sur un 33 tours, j'espère.
Bien sûr. Okay, oui. Et il y aura une phase B pour le bêtisier. Ah, mais non, c'est maintenant.
Ok. Alors, bah là, ça n'a rien à voir. C'est Pete. Alors, pourquoi un tableau Pete ici? Pourquoi les différentes versions de Pete? Eh bien, c'est parce qu'on explique qu'un jeu peut évoluer au travers du temps, qu'un même jeu chez des éditeurs différents va avoir complètement une autre allure, une autre façon de... Ce sera totalement différent. Ouais. Donc, sur une idée de base, il y a 1000 adaptations différentes.
Donc, effectivement, sur l'idée de Pete, sachant qu'il date de 1919, on est ici maintenant en 2008 avec la version repoproduction et on voit les différentes étapes. Et encore, toutes les boîtes n'y sont pas parce que j'en ai eu d'autres en main.
Il ne date pas de 1919, mais de 1909. Mais effectivement, l'affichage qu'on a fait, la première boîte est de 1919. On n'a pas trouvé de visuel antérieur.
D'accord. Donc, on a le Pete de repoproduction, c'était pratiquement les 100 ans de Pete.
C'est ça, c'est le meilleur.
Bien sûr.
Voilà. Ah, ici, nous avons un magnifique observatoire.
Laboratory. Ah non, c'est... un observatory.
Un observatory, mais le laboratory, c'est le chaînage.
Oui, juste.
Voilà. Alors, toujours dans l'âge 2, les différentes étapes d'édition.
Donc, un long développement commence.
Voilà. Alors, on parle du développement, parce que le développement, ça, c'est... Tous les éditeurs le font, mais c'est un petit peu une des marques de fabrique de Roboprod, sachant que chez nous, c'est ce qu'on fait peut-être le plus. Eh bien, le développement, c'est changer le jeu, essayer une nouvelle règle, essayer une nouvelle icône, essayer un nouveau pouvoir, etc. 100 fois remettre le jeu.
Donc ça va vraiment petit point de règle par petit point de règle. On modifie, on rejoue plusieurs fois.
Bah, des fois, il y a des gros points de règle. Hein. Il y a des bouleversements complets. On en a eu un notamment sur les cartes militaires où le scoring militaire était très, très différent à l'époque, où on calculait ses points en fonction de la différence de points entre son voisin et soi-même. Et c'était long, c'était chiant, ça prenait du temps. Et à la fin, on s'est dit, bon voilà, c'est Antoine qui a eu cette idée. Lorsqu'on est revenu vers lui en disant, écoute, il y a ce problème-là, c'est là où il y a eu l'idée des 1 point de victoire pour l'âge 1, 3 points de victoire pour l'âge 2, 5 points de victoire pour l'âge 3, et toujours moins 1 quand on perd. Oui. Voilà. Donc là, on explique un petit peu ces étapes de développement.
Absolument. Alors, panneau suivant, déguiligiling.
Alors, développement et ergonomie cette fois-ci.
Très important chez Repo, apparemment.
Alors voilà, oui, l'ergonomie, ben, c'est un petit peu d'essayer que le jeu parle de lui-même, que le joueur n'ait pas se creuser en disant ah, qu'est-ce que ça veut dire ça. On essaie de mettre des icônes pour que ce soit simple. Et ici, ben, on peut voir l'évolution des merveilles. Mmh. Donc, sur peut-être 6 ou 7 versions de Merveille et au moins tout autant de cartes, des tests graphiques pour le positionnement de la couleur de la carte, pour le positionnement des icônes, même pour l'iconographie, on peut voir qu'on a essayé pendant un moment de faire des icônes juste en noir et blanc, un peu comme les icônes de panneaux de la route, ça n'a pas marché, on a bien fait de ne pas le faire. Et voilà, des étapes de merveille en plusieurs parties où on construisait sa merveille. Mmh. Mais ça, c'était bien, mais c'était bête, parce que dans ce cas-là, on ne mettait pas les cartes. Donc, on ne voyait pas les cartes qu'on avait bloquées. Oui. Les cartes, à l'époque, c'était encore défaussées. Voilà. Donc, on voit ces plusieurs étapes.
Oui. Et donc, on est de 2009 à 2010, de développement pendant 2 ans. En fait.
C'est ça, 2 ans de développement. Et là, ça a été intensif. Hein. Très sérieusement, on était à plus de 500, voire 600 parties. Mmh. En cumulé, hein, tous ensemble. Oui, hein. Oui, oui. On a un peu dormi entre deux quand même.
Oui, de temps en temps. Alors, ici, une autre vitrine où on voit version 1, version 2, version 3, version 4, version 8. Voilà, donc toutes les fameuses versions de Seven Wonders.
Alors, ici, on voit plusieurs choses. On voit déjà la roadmap d'Antoine. Mmh. Parce qu'Antoine, lui, consigne tous ses tests. Donc, on voit qu'Antoine a fait 254 parties exactement sur les 8 versions différentes, qui est 76 modifications, 76 pour nos auditeurs français, 55 ajouts, 14 suppressions et 588 litres de... Non, ça, on ne peut pas le dire.
Non.
Ok. Voilà, différentes étapes de cartes. Okay. Mes préférées sont là. Toi, elles donnaient vraiment en avant les graphismes de Miguel, mais on ne les a pas retenus parce que dans ce design-là, la couleur de la carte n'était pas assez présente que pour être bien vue d'un bout à l'autre de la table. Oui. Et le chaînage était indiqué à droite. Et lorsqu'on recouvrait les cartes les unes en dessous des autres, on avait difficile à voir ce chaînage. Mais je les garde quand même.
C'est
dans mon cœur.
Une version à toi.
Peut-être qu'un jour, je réimprimerai ma propre version de Seven Wonders. Mais soit dit, je suis très content de la version actuelle. Hein. Justement, les graphismes. On disait
quelle transition.
T'as vu ça? Faire la part belle à Miguel. Justement, nous sommes dans le panneau de l'âge 2 qui présente Miguel.
Miguel Coimbra.
Miguel Coimbra, qui est un dessinateur de génie.
Ah bah oui, puisqu'il a fait Seven Wonders.
Un illustrateur de talent.
Absolument. C'est l'éditeur qui parle.
Oui, donc voilà, donc ici plusieurs dessins de Miguel, sa biographie. On explique qu'il a fait plus de 70 dessins et qu'il a pas mal sué sang et eau sur les merveilles avec un éditeur qui le rappelle toutes les 5 minutes en lui disant bouge le pixel à gauche, bouge le pixel à droite. On est chiant, hein? Oui, on est chiant. Voilà, regarde, un magnifique training round. Voilà, donc une carte rouge quand même.
Absolument.
Et on continue dans les intervenants. Qui produit le jeu finalement, hein? Qui fait tourner les rotatives? Ben, l'usine.
Voilà.
Et donc là, on a un petit panneau sur Ludofact, qui est le premier à avoir imprimé le jeu. Non, le deuxième, pardon. Où on voit quelques étapes de création. Mm-hmm. Et d'ailleurs, le petit bruit qu'on entend dans le fond, c'est une vidéo qui passe. Voilà. Qui est fait par les gens de The Spiel, qui sont en fait deux Américains qui viennent chaque année rouler leur boss sous forme d'un projet Kickstart dans le coin. Et qui font des petits reportages, qui après les vendent leurs DVD. Voilà, donc leur reportage diffusé, parce qu'on voit les étapes de création de Seven Wonders à l'usine.
Justement, quel raccord.
Voilà.
Alors, une énorme affiche avec le Colisée.
Non, c'est pas une énorme affiche, c'est une énorme affiche.
Oui, pardon, excusez-moi.
Et c'est pas le Colisée, c'est le temple d'Artémis.
La même chose.
Non, c'est pas pareil. Regarde, tu as loupé une vitrine. Hein. Alors ça, c'est la vitrine culturelle.
Ah.
Ici, nous avons les 7 merveilles du monde. Et on explique un peu. C'est là où tu sais, par exemple, que la grande pyramide de Gizeh à une base carrée de 137 mètres de hauteur.
Mmh.
Une base carrée de 137 mètres de hauteur.
Oui, ok.
Voilà, c'est
ça,
classe.
Ça, c'est le genre de choses qui arrivent.
Oui, c'est classe, voilà. Je suis très fier.
Alors, H3, de la rencontre avec le public au succès.
Eh bien là, nous dévoilons les secrets du marketing.
Engager des jeunes filles déguisées en égyptiennes.
Et acheter un chat blanc.
Ah oui.
Alors, ben voilà, on explique qu'on montre le jeu sur des conventions. On explique un petit peu comment s'est passé le Essen de la sortie du jeu, où toutes les boîtes étaient sold out, mais avant l'ouverture du salon.
Déjà.
On montre notre jolie démonstratrice déguisée en Cléopâtre. Et enfin, petit clin d'œil, attention, la 8e merveille du monde, le Mannequin Beast.
Tout à fait. Je pensais à Miguel tout à l'heure, c'est quand même un des rares illustrateurs de jeu qui a dessiné le Mannequin Beast.
C'est l'un des rares illustrateurs de jeux qui a permis de vendre des petites statues de garçons tout nus aux États-Unis.
Ah ah ! Des petites statues, vraiment ?
Non, je veux dire l'illustration, sans qu'on ait de procès. Hein.
Ouais.
Voilà. Ah, bon, là, c'est un petit peu de crème.
Oui.
C'est le...
Un petit peu de brosse à reluire.
Et voilà, c'est le panneau où l'on montre un petit peu tous les prix qu'a reçus Seven Wonders.
Et donc, il y en a pas mal.
Dont le fameux Kennerspiel des Sierros. Et maintenant, on en est à plus de 30 ou 34 prix, je ne sais plus. Il faut que je regarde derrière une boîte. Mais
Vous avez vérifié dans vos archives ou dans les archives ludiques, c'est vraiment le jeu de société le plus primé au monde.
Oui. Donc, voilà. Donc, ici, un magnifique écran avec des gugus en Allemagne. Ouais. Alors, on présente la vidéo de remise du Spiel.
Magnifique vidéo. Que je ne sais pas si on peut encore la voir sur Internet.
Je pense qu'elle est encore disponible en ligne.
C'était sur JSP.
Filmée et montée par Monsieur Patrice Pain himself. Ouais. Target
magnifique
pour
vidéo.
Les intimes.
Ouais. Petite larmichette à la remise du prix.
Oui.
Et voilà la vitrine avec certains prix, dont évidemment le Kennerspiel de CRS 2011.
Qui trône à la place d'honneur, hein, tout autour de la vitrine. Et quelques-uns des trophées, des prix que nous avons reçus en cristal, en marbre, en bois, à pied, à cheval, en voiture.
Oui.
Voilà.
Et voilà.
Non, regarde, un grand panneau.
Oui.
Avec.
Avec le temple d'Éphèse.
Non, ça c'est la pyramide de Gizeh. Attends, viens, on va continuer. Voilà. Oh, une autre vitrine. Alors là, regarde, une version polonaise.
Oui.
Une version scandinavienne.
S'il vous plaît.
Une version japono-coréenne.
Oui.
Japonais, si on demande, tu dis que c'est japonais.
Oui.
Voilà.
Avec toute la version, les extensions.
Voilà, les leaders, cities, les cartes spéciales. Donc on montre un petit peu que Seven Wonders a une portée internationale, monsieur.
Donc maintenant, il est distribué dans combien de pays, tu sais ça ?
19 langues.
19 langues.
Ouais. 19 langues. Donc, si tu comptes que le français, par exemple, c'est aussi la France, la Suisse, la Belgique, le Québec. Voilà. Hein.
C'est déjà pas mal.
Regarde ici, Antoine Boza, qui explique le jeu en vidéo.
Ouais, dingue.
Voilà. Hein. C'est pour des gens qui ne connaîtraient pas. Regarde, là, une version géante du jeu.
Mais c'est incroyable.
Mais oui, comme ça, les gens pourraient même essayer le jeu, t'imagines. Et comme ça, ça donne la part belle aux illustrations. Viens, on va aller voir là-bas, il y a une énorme pyramide.
Oh, ici, mais qu'est-ce que c'est ?
Nous avons une pyramide dont la base fait à peu près 137 boîtes de hauteur.
Oui,
voilà, qui est réalisée uniquement en boîtes de Seven Wonders.
Oh, elles sont toutes pleines, elles sont encore cellophanées.
Ce sont des vraies boîtes, on espère qu'on ne va pas se les faire tirer, parce que sinon la pyramide va avoir une sale gueule. Voilà.
Et voilà.
Et au-dessus, il y a deux sombreros quand même.
Oui.
pour nos deux demi-cerveaux. Tu sais qu'on a chacun demi-cerveau, donc oui. On a voulu l'illustrer. Oui. Mais attends, mais il y a un poteau central, on va faire le tour du poteau.
Faisons le poteau.
Une guilde des ship-owners.
Ship-owners.
Alors peut-être l'aurais-tu remarqué, mais tu vois, les cartes brunes ont des illustrations plutôt brunes.
Oui.
Les cartes grises ont des illustrations plutôt grises. Mm-hmm. Les cartes mauves, des illustrations plutôt mauves. Oui. Puis en tant que c'était fait exprès.
C'est pas vrai.
Si. Et bien on a voulu le montrer. Alors,
les jeux de société se démodent et peuvent devenir obsolètes.
Oui, mais pas les nôtres. Donc là, on dit des mal des jeux concurrents qui sont très, 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 très vieux, mm-hmm. auxquels les gens jouent encore les dimanches après-midi plus vieux, en se disant « Ouais, c'est pas terrible, jeu de société pour les gamins, moi, j'aime pas. » Et « Ah, terminé, j'ai gagné. »
Ça me rappelle quelque chose.
Voilà.
Donc voilà, avec les jeux modernes, le plaisir est au centre du jeu.
Voilà, et donc regarde une photo d'une magnifique boutique de détaillants qui font bien leur travail.
Voilà.
Ah, continuons. Des chiffres.
Envie de chiffres.
Envie de chiffres. Eh bien voilà, donc ici on a dit quelques chiffres clés pour Seven Wonders. Ouais. Bah, 7 pour. 7, j'ai dit 7, hein. Oui, j'ai dit 7. 7, donc le nombre de ressources, de cartes en main, de bâtiments, etc. Plus de 500 parties de développement, tu vois, c'était 500 parties. Tout à l'heure, je disais 600, mais c'est parce qu'ils n'ont pas compté les miennes, vu que je travaille mal. Voilà. Ensuite, le nombre de boîtes que fabrique Ludofac par an, 12 millions.
Oui, c'est correct, par an.
C'est pas 12 millions de Seven Wonders, hélas,
mais ça viendra.
C'est déjà pas mal. Continuons.
Oui. Alors, juste un petit truc, des artistes passionnés, pourquoi ? Sachant que vendre 3000 exemplaires en un an pour les pays francophones est un succès pour un jeu vendu 40 euros, l'auteur touchera entre 2500 et 4000 euros brut par an. Bon, on fait un petit calcul là-dessus.
C'est exact.
Voilà.
Donc ça laisse deviner que, ben, avant de pouvoir en vivre, un auteur de jeu ou même un éditeur de jeu doit vendre un paquet de boîtes. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer.
Ah non.
Sinon, quand on a des bonnes idées. Plus d'auteurs de jeux.
Donc, comme au cinéma, il y a des suites.
Et oui, donc là, on parle du fait que Seven Wonders a des extensions. Leaders, Cities. Là, on voit les cartes bonus. On voit le plateau Catan. Enfin, voilà.
Voilà.
Des petites choses. Et je crois qu'il reste, je crois qu'il reste
un bord du mur. Allons voir de l'autre côté de la dernière colonne.
On regarde un magnifique palace en bleu. Et là, le panneau du futur. Donc,
on entrevoit le futur.
Voilà, on entrevoit le futur. Le futur est numérique.
Oui.
Donc, on nous parle de Seven Wonders iPad. Pour l'instant, on parle du scoreur. Mais regarde, on voit les futurs écrans de l'application qui va venir. Où on pourra jouer contre une intelligence artificielle, une IA, ou bien contre des vrais humains connectés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus.
Ça, c'est le...
Voilà. Et donc, maintenant que tu as fait le tour de cette exposition, je t'invite à aller signer le livre d'or.
Mais avec grand plaisir, je vais le faire avec mon micro.
Eh bien, je te remercie.
Merci Cédric et félicitations à Repos et à Antoine évidemment pour justement cet événement culturel finalement.
Eh bien écoute, avec plaisir.
Vous avez aimé ce podcast, alors appuyez sur la touche trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast, alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.